aucun nom.
Oui, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette soirée du 20 mars 2014. Je précise ça parce que c'est enregistré. Voilà, donc à la Bibliothèque sociale de Merlieu. Donc on accueille ce soir André Loez pour son livre La Grande Guerre, carnet du centenaire. Mais avant de commencer, on va faire une petite page de publicité, vous dire un peu comment ça va se passer. Parce que André ne pourra pas rester jusque 21h, donc il reprendra le train de 20h28, je crois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on parte à 10 d'ici, pour qu'on ait un petit peu de marge. Et donc, on ne va pas commencer trop tard. Voilà. Donc, ce que je voulais dire quand même, c'est que ça se passera comme d'habitude, hein, c'est-à-dire au moment où on va poser quelques questions sur ce livre et d'autres. Et ensuite, on a un apéro dînatoire. On partagera des tartes, des cakes aux crevettes et autres. Voilà, votre plaisir. On pourra boire un coup. Hein, le groupe Kropotkin qui organise la soirée vous offrira l'apéro. Et puis, bon, ça donnera l'occasion de, en tête à tête de, faire, de discuter ou de signer les livres. Donc, nous avons une petite table de presse avec quelques livres. On signale quand même que, par principe, tous les livres qui sont là sont en vente. Mais pour les gens qui voudraient les lire et qui ne peuvent pas les acheter, ils sont systématiquement en accès prêt à la bibliothèque. C'est un principe qui nous est cher et que nous respectons. Voilà. Il y a un autre petit point que je voulais aussi aborder, c'est qu'il y a une boulangerie coopérative qui s'est montée dans le village à côté. Et ils ont fait du pain tranché qu'on mettra tout à l'heure sur la table. Donc, vous pourrez y goûter. Ils l'ont offert pour faire connaître leur pain avec des petits papiers publicitaires. Et si vous en voulez, de toute façon, nous, on passe une commande globale. Et le jeudi, ils nous livrent et les gens viennent chercher leur pain pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque sociale. Alors la bibliothèque sociale est ouverte pas tous les jeudis, le premier, troisième et cinquième jeudi du mois quand il y en a un, de 18h à 21h. Toutes nos activités sont gratuites, mais il est possible de nous aider. Il y a une petite boîte là-bas, soutien, donc ceux qui peuvent, la fente est un peu petite pour les lingots d'or, donc on se contentera des pièces et menus billets, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, tous les ans, de janvier à juin, la Bibliothèque sociale organise des rencontres mensuelles. Donc, en janvier, nous avions reçu Gérard Mordilla. En février, Pierre Goya, qui nous a parlé de Jean Mecker, un écrivain de polar qu'on connaît le plus sous le nom de Jean Amila, et on pourra peut-être faire un lien puisque Jean Amila a écrit Le Boucher des Hurlus, voilà, qui est sur la Grande Guerre, la guerre de 14. Le 20 mars, c'est aujourd'hui André Loez, donc on va y revenir. Le mois d'avril, nous recevrons un auteur local qui s'appelle Claude Mouflard, qui a écrit deux livres, L'Or Grande Lin et puis Exode. Donc, les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent venir emprunter le livre pour le lire avant. Il écrit très bien. Voilà, des fois, on a des surprises dans les auteurs locaux. Mais là, manifestement, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Il n'y a pas de mots de trop. C'est concis, c'est précis. Et les sujets sont intéressants. On en reparlera donc au mois d'avril. Le 22 mai, nous recevrons Claude Pentier et Hugues Lenoir. Alors, pourquoi ? Bien parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le Métron. Le Métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. C'est un truc en papier, ça fait 44 volumes. Et ce Métron, à la mort de Jean Métron, qui en était l'initiateur et qui a écrit notamment l'histoire du mouvement anarchiste en France, c'est Claude Pentier qui a pris le relais. Et c'est lui qui vient donc nous présenter ce dictionnaire, notamment à l'occasion de la sortie d'un volume consacré aux anarchistes francophones, d'où notre intérêt pour le faire venir. Ce livre sort au 1er mai, Hein, et le 22 mai, donc voilà, on pourra en parler. Donc avec Claude Pelletier, le directeur de collection, et Hugues Lenoir, qui est un universitaire à Nanterre. Il s'appelle Lenoir, un nom qui lui va bien. Voilà. Ensuite, pour le mois de juin, eh bien, exceptionnellement, nous ne ferons pas un jeudi, nous ferons un samedi, le 28 juin, parce que nous recevons Jérôme Prieur, et Jérôme Prieur est écrivain, mais aussi réalisateur, un peu comme Mordillat. Donc, ce sera l'occasion, avant le débat, de projeter un film qui s'appelle Hélène Baer, une jeune fille dans Paris occupé. C'est une femme juive qui assiste à la... le port de l'étoile jaune, etc., à ce qui va se passer et qui est un peu catastrophé de voir que les gens ne se rendent pas compte ou ne veulent pas se rendre compte. Enfin, voilà, ce sera le... on pourra parler de ça. Et puis, on parlera de son dernier roman, Une femme dangereuse, et aussi d'un autre roman qu'il a écrit, enfin, un roman plutôt documentaire, qui s'appelle Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration. D'ailleurs, dans le... Je m'aperçois qu'il y a des erreurs, parce que normalement, mur, on met une majuscule, Atlantique aussi, monument aussi, et collaboration aussi. Dans le titre, il a choisi de mettre des majuscules, on aurait pu le remettre. On essaiera de rectifier pour la prochaine parution. Voilà, donc on parlera aussi de ce thème. Bon, voilà pour le programme. J'ai déjà été assez long, donc revenons à André, qu'on remercie d'abord d'avoir accepté de venir à Merlieu.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Ouais, c'est un lieu que tu connais particulièrement bien, Hélène.
Oui, ça fait plus de 10 ans que j'y viens dans le cadre de recherches, et puis des recherches qui sont devenues amicales, au Chemin des Dames en particulier, avec Noël Janteur qui nous reçoit toujours. Et ça a commencé en fait avec le livre qui est paru en 2004 sur le Chemin des Dames, qui était une enquête collective et qui visait un peu à redonner la visibilité à une bataille que tout le monde connaissait, mais qui avait finalement été relativement peu travaillée, et puis qui était quand même toujours un peu éteinte par Verdun, hein, par le monument patriotique de Verdun, et le Chemin des Dames, c'était plus compliqué d'en parler. Et donc on avait cherché à faire ça, et puis depuis, bah, chaque année, en particulier en novembre, et quand je peux, le 16 avril, je viens dans l'Aisne.
Oui, le 16 avril. J'en profite, une petite aparté, mais Noël Janteur a téléphoné pour s'excuser, il aurait bien voulu être là. Il a un conseil communautaire,
oui,
et pour voter le budget, c'est difficile pour lui, en tant que président de la communauté communale, de ne pas être là au moment où on vote le budget. Voilà. En tout cas, bon, il te donne le bonjour. Oui, ce livre, donc, Le Chemin des Dames, j'en ai mis des exemplaires. Il y en a aussi en vente. Il a été réédité, d'ailleurs,
en poche. Voilà.
En poche. Donc, mais toi, tu avais aussi beaucoup travaillé sur les mutineries de 1917, sur les refus de guerre. Et il est toujours sorti en poche, je crois, le refus de guerre.
Mon livre sur les refus de guerre, c'est celui qui est là, c'est en folio. C'est un livre qui est tiré de ma thèse, et donc il est sorti directement en poche. Et c'est effectivement, moi, ce qui a été mon sujet d'étude principal pendant des années, c'est-à-dire les soldats qui se révoltent contre la guerre en mai-juin 17, qui s'opposent à la guerre. Et j'ai essayé de les comprendre, disons, différemment de la manière dont ils étaient compris d'habitude, parce que souvent, on disait les mutineries, c'est une grogne. C'est une grogne, c'est des soldats qui protestent. Bon, et quand on dit grogne pour un mouvement social, bah, ça renvoie quand même du côté de l'animalité. C'est quelque chose qui est ni conscient, ni organisé, ni digne d'intérêt. Hein. C'est la grogne et puis ça passe. Et moi, j'essaie de montrer qu'en fait, ces gens qui se mobilisaient contre la guerre avaient des choses à dire, avaient des pratiques de protestation qu'ils essayaient de mettre en place, même si à l'armée, c'est compliqué de protester et à plus forte raison dans une guerre. Et donc, j'essayais, disons, de prendre au sérieux l'événement, peut-être plus qu'il avait été jusque-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un gros bouquin sur les mutineries pour... notamment restituer un petit peu ce qu'avaient été les expériences, les espoirs, les pensées, les discours des mutins, qui n'étaient pas tous politisés, qui n'étaient pas tous même très, très organisés dans ce qu'ils faisaient. Il y en a qui se contentaient effectivement de gueuler à bas la guerre, de boire un coup et puis de se défouler parce que c'était aussi ça qu'ils avaient besoin de faire. Il y en a qui ont essayé de construire ça de manière plus forte et même d'essayer d'aller à Paris pour... imposer la paix ou demander la paix au gouvernement. Ils n'ont pas réussi, évidemment. Mais voilà, c'est cet événement, c'est, disons, par cet événement que je suis rentré vraiment dans l'étude de la Grande Guerre.
Mais c'est vrai que ce sont des points de la Grande Guerre qu'on a eu du mal à aborder. C'est-à-dire que ces mutineries, les fusillés pour l'exemple, les moments de fraternisation entre les ennemis. Toi-même, tu disais que tu as un grand-père qui...
Moi, j'ai un arrière-grand-père, mais bon, c'est une histoire que j'ai apprise uniquement après avoir commencé à travailler là-dessus, donc c'est pas ça qui m'a orienté. Mais j'ai un arrière-grand-père qui, en 1915, comme il était antimilitariste et pour le rapprochement entre les peuples, ce qui était quand même assez rare à l'époque, a appelé ma grand-mère quand elle est née, sa fille, il l'a appelée France Germaine. Et à l'état civil, c'était son nom, France Germaine, pour réconcilier.
En 1915.
Et en 15, c'était quand même relativement rare. Alors, malheureusement, j'ai pas d'informations sur ce personnage, il n'y a pas vraiment une mémoire familiale. Qui s'est transmise au-delà de ce nom. Il n'y a pas de document sur lui, j'aimerais bien en savoir plus. Mais alors, je suis d'accord et pas d'accord pour dire que c'est des sujets dont on n'a pas parlé. Les fusillés, on en a énormément parlé. Les fusillés ne sont pas et n'ont jamais été un sujet tabou. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait déjà d'énormes campagnes de mobilisation, la Ligue des droits de l'homme, les communistes. Énormément de gens s'étaient mobilisés déjà pour que les fusillés soient réhabilités. Une cinquantaine de fusillés ont été réhabilités. Et puis, c'est quelque chose qui reste et dont on reparle aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que les fusillés soient un événement dont on n'a pas parlé. Les mutineries, c'est un peu différent parce que les mutineries, effectivement, avaient été étudiées, mais surtout par des historiens militaires. Et notamment, l'étude des mutineries jusque dans les années 2000, on va dire, c'était surtout une manière de dire Pétain. Quel grand personnage, c'est le vainqueur de Verdun, et c'est lui qui a su calmer les mutineries, qui s'est montré humain, et donc on mettait toujours en avant un bilan très modéré, comme on disait, de la répression sous Pétain, donc, et d'ailleurs d'une manière assez contradictoire, parce qu'on disait un bilan modéré, il a fait exécuter une trentaine de mutins. Bon, mais on disait toujours c'était une répression humaine, c'était une répression, voilà, il n'a pas usé de la manière forte. Bon, ce qui correspond pas forcément à la réalité, mais c'était le discours qui était tenu. Et donc un discours sur les mutineries qui était vraiment centré sur la répression, l'armée qui reprend le dessus. Moi, j'ai essayé de partir de l'inverse, c'est-à-dire partir des soldats et de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils pensaient. Donc pour les mutineries, je pense que c'est vrai, pour les fusillés, c'est un peu moins vrai. Les fusillés, ça a quand même été énormément dans le débat public depuis la guerre, en fait.
Oui, on avait du mal à savoir combien, par exemple, on n'avait pas accès aux archives, à part le bouquin de Pedro Rossini pendant très longtemps, qui était une référence, hein. Et bon, voilà, c'en était resté là, quoi. Après, il y avait des petits fascicules. Bon, il y avait des monuments qui dénonçaient la guerre, comme à Gensiou, qui n'ont jamais été inaugurés. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais été, même encore aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas été...
Ça, je sais pas. Il faudrait regarder dans le bouquin de Pierre Roy, ouais, sur les monuments pacifistes en France. Il faudrait vérifier s'ils ont été. Il y a le Valois aussi, qui est un grand monument pacifiste.
Voilà, donc bon, nous on est bien placés ici dans l'Aisne, puisque bon, un crâne que bon, beaucoup connaissent sous le nom de Craon à cause de la chanson de Craon, voilà, c'est quand même un village qu'on peut considérer au niveau officiel jusqu'à l'avènement de l'inauguration du monument de M par Jospin en 98, voilà. Hein, bon, c'était un village de... Jeanteur pourrait nous en parler, parce que j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, parce que bon, on faisait toutes les commémorations à Cerny, juste à côté, et Crâne, il fallait pas en parler, il fallait même pas prononcer, c'était le lieu, quasiment le lieu maudit, certainement à cause de la chanson Crâne. Bon, alors, c'est pour ça que bon, nous, au niveau de la bibliothèque sociale, quand on a vu qu'on allait parler de la Grande Guerre pendant 4 ans, peut-être plus, qu'on allait nous abreuver, on s'est dit, bon, voilà, c'est une chose peut-être un peu trop sérieuse pour les laisser juste aux militaires. Donc, on va commencer, nous, par faire venir quelqu'un qui va nous parler de la guerre avec un regard un peu différent de ce qu'on a l'habitude de percevoir. Alors, ça, c'est une transition pour arriver à ce livre-là, parce que je trouve que dans la multitude de témoignages, d'analyses, de travaux historiques, il y a quand même une particularité, ce livre. C'est quasiment un panorama. Je veux dire qu'à lui seul, il ouvre un tas de pistes, il revisite un tas de choses qui ont déjà été dites, c'est-à-dire que c'est un livre de synthèse. Et en même temps, il y a plein de trucs inédits. Et puis, pour une fois, moi, je trouve que la Première Guerre mondiale, on voit qu'elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on apprend des détails de partout, aussi bien intervention des Japonais contre une enclave allemande en Chine, etc. Et voilà, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, comme ça, de faire un travail, mais sous ce type original de...
Bah effectivement, quand on a prévu ce livre avec Nicolas, hein, qui peut pas être là, et je l'excuse, il s'excuse à travers moi.
Nous, on l'excuse pas.
Non, bah, vous lui direz, hein, vous réglerez vos comptes, moi je suis que le messager.
On l'aime beaucoup, Nicolas, il est déjà venu.
Donc, quand on a eu l'idée de ce livre, on s'est dit qu'effectivement, au moment du centenaire, on allait être énormément dans une certaine mythologie de la guerre, qui a ses raisons d'être, hein, bien sûr, c'est le poilu dans sa tranchée. Et évidemment, le poilu dans sa tranchée, c'est quelque chose de central et c'est fondamental dans la mémoire de la guerre, en particulier en France. Mais on s'est dit que ça suffisait pas et que c'était des thèmes, en plus, qu'on avait déjà l'un et l'autre pas mal visités, pas mal étudiés. Et donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de croiser les approches, de croiser les regards, de montrer aussi d'autres facettes de la guerre, des facettes effectivement moins connues. Moins connues aussi pour nous, parce que pour nous, ça a été une aventure intellectuelle d'écrire ce livre, parce que on a dû faire des recherches, on a dû essayer de découvrir des aspects, des lieux, des personnages, des événements qu'on ne connaissait pas ou pas bien. Et du coup, ça nous a entraîné sur des pistes un petit peu différentes, en se disant que quand on y réfléchit un peu, ce centenaire, on sait qu'il va avoir une dimension mondiale et une dimension franco-française. Et la dimension franco-française, on l'a déjà vu en partie, on a déjà vu un peu le dispositif de commémoration qui se met en place, le discours de Hollande en novembre 2013 qui lance la commémoration, et puis il en fera d'autres sûrement. Et c'est un discours très patriotique, hein, voilà, il faut être mobilisé comme en 14 pour gagner les batailles économiques de demain, etc. La nation doit être rassemblée. Bon, c'est effectivement un type de discours qu'on peut tenir. Mais il nous semblait à tous les deux plus intéressant, en tout cas du point de vue de l'historien, de montrer que cette guerre a été un moment d'apogée du nationalisme et du patriotisme, de ces deux facettes, voilà, du sentiment national, mais ça a été aussi un événement, avant tout un événement mondial, qui a impliqué des gens de tous les continents, et on a cherché à donner, à voir ça, justement, pour, par rapport à une commémoration qui risque un peu de s'enfermer dans le côté franco-français, pour essayer d'ouvrir un peu les horizons. Voilà un peu quel était le projet. Et puis après, je pense qu'on s'est pris au jeu et qu'on a essayé, voilà, de trouver, en particulier, il y a un chapitre sur les personnages, où je crois qu'on a 22 personnages, c'est compliqué, hein. Il y a, je sais pas combien de millions de gens qui ont combattu, je crois 60 millions de gens qui ont combattu, plus les civils. Bon. Donc, c'était compliqué d'isoler comme ça des personnages, mais on a essayé de trouver des personnages un peu singuliers qui permettent de raconter des histoires, qui permettent de raconter des trajectoires, effectivement, originales qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Un soldat noir américain, un travailleur chinois en France, bon, voilà, des thèmes qui sont un tout petit peu décalés par rapport, voilà, encore une fois, au poilu français dans sa tranchée, qui a sa place et qui mérite de l'avoir, mais on essaie de croiser d'autres approches.
Donc, voilà, ça c'était pour donner le côté un peu panoramique de ce conflit qui est très bien retracé, mais bon, il y a d'abord, dès le départ, il y a une synthèse historique qui recadre tout le moment, donc on a à grands traits tout ça dans la tête, et c'est intéressant de voir un peu toute cette façon dont l'agencement la triple entente d'un côté, la triple alliance, qui font que par un effet domino, finalement, il y a de plus en plus de pays qui se retrouvent en conflit, avec de plus en plus de millions de gens qui sont associés à une... Et bon, c'est intéressant de voir comment ça s'est passé pour le conflit de la Première Guerre mondiale. Malgré toute l'horreur de ce conflit, il y a quand même eu la Seconde, donc on pourra peut-être aussi aborder le traité de Versailles, comment, dans l'humiliation qu'on met dans ce traité de Versailles, comment on prépare le second conflit, comme ça avait été bien montré, moi je trouve aussi comment la Première Guerre mondiale avait des antécédents qui étaient prévisibles. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit juste raccourci au niveau de l'actualité, parce que entre ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui avec la Crimée, l'Ukraine, où il y a aussi des alliances, etc. Et bon, pour l'instant, c'est circonscrit, mais moi je me dis que justement, juste après avoir relu pour cette rencontre ce truc-là, mais que c'était pas plus anodin que ce qui s'est passé quand il y a eu l'assassinat de l'héritage du trône de l'Empire austro-hongrois.
Alors, ça, c'est un parallèle intéressant. Il est compliqué quand même à faire, hein, parce qu'on manque de recul sur ce qui se passe en Ukraine. Moi, ce que je vois comme élément, disons, qui me frappe dans ce parallèle, c'est qu'en 14, effectivement, la question serbe et la question de l'Autriche-Hongrie, c'est une question locale. Mais c'est une question locale qui devient une question mondiale par le fait des alliances et aussi par le fait du statut des États qui sont en cause. Aucun des États qui sont impliqués dans la crise ne veut perdre la face. et ne veut abdiquer son statut de grande puissance. Or, le mécanisme de la crise de l'été 14, ça fait que si l'un de ces États, disons, admet, entre guillemets, admet le coup de force de l'autre, par exemple si les Russes admettent l'ultimatum des Autrichiens, ou alors si les Allemands admettent la mobilisation des Russes, ou si les Français admettent l'état de guerre entre l'Allemagne et la Russie, si un des États admet ça, ben, quelque part, il se renie en tant que grande puissance, et puis il admet qu'il n'a pas de rôle majeur à jouer. Or, aucun de ces États n'est prêt à le faire, aucun des dirigeants n'est prêt à le faire, ils considèrent que leur statut leur impose d'agir d'une certaine façon. Même si cette façon va se révéler incroyablement destructrice, mais finalement c'est un risque assumé parce que c'est ce que fait une grande puissance, elle entre en guerre pour ses intérêts. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit, et que d'un côté, évidemment, on peut tout à fait déplorer le fait que l'Ukraine soit annexée par une partie de l'Ukraine soit annexée par la Russie. En même temps, peut-être qu'il est sain aussi pour, disons, la paix mondiale, que les États-Unis, l'Allemagne ne soient pas dans la posture de « si vous faites cela, ce sera la guerre », parce que ça pourrait déraper de cette façon-là. Alors peut-être faudrait-il le faire pour sauver les Criméens, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de lumière particulière sur ce qui se passe dans la région. En plus, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe et quelles sont les forces réellement en présence. Mais il me semble en tout cas que la Russie joue encore ce rôle-là, la grande puissance qui déploie ses ambitions de manière extrêmement agressive. Les autres États sont beaucoup plus en retrait parce qu'ils ont été quand même instruits par un certain nombre de déconvenues, y compris récentes, y compris dans les guerres lointaines comme l'Afghanistan, l'Irak, etc., que finalement, ce statut de grande puissance, ils ont plus de mal à l'assumer. Et du coup, ils sont, me semble-t-il, beaucoup plus en retrait dans cette crise diplomatique. Alors avec un effet positif, c'est, le maintien d'une forme de paix ou en tout cas de calme. L'effet négatif, c'est qu'on laisse évidemment Poutine mettre la main sur la Crimée. Mais j'ai pas de lumière particulière sur ce qui se passe. Je trouve que c'est compliqué à décrypter, mais on est un peu partagé entre le risque de guerre et puis en même temps le risque de mainmise par un État agressif et impérialiste sur une région qui ne lui appartenait pas. Donc là, la situation actuelle, elle est quand même assez troublante du point de vue des relations internationales.
Bon, moi, j'entends un peu que donc les États auraient entendu quelque chose de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Alors que pour l'instant, moi, je vois qu'avec l'OTAN, avec les enjeux comme ça, on se retrouve quand même dans une situation similaire à des pays qui sont prêts à rétablir la guerre froide au minimum. Quoi, mais en même temps, effectivement, avec la trouille de savoir ce que ça peut déclencher, puisque aujourd'hui, les économies sont beaucoup plus impliquées qu'elles ne l'étaient en 14.
Là, elle était énormément en 14, en fait. Ouais. En 14, elle était énormément, et c'était d'ailleurs une des croyances qui faisait qu'on pensait pas à la guerre, qu'on pensait que la guerre serait limitée, ou que la guerre serait locale, que de toute façon, personne ne pouvait se permettre une guerre de cette nature-là. Et d'ailleurs, la suite a donné raison à tous ceux qui le pensaient, parce que de fait, personne ne pouvait se le permettre, et ça a ruiné et dévasté une bonne partie de l'Europe. La question que ça pose, c'est la question de la dissuasion, en fait. En 14, il y a deux blocs d'alliances qui sont conçus comme dissuasifs. La triple alliance d'un côté, la triple entente de l'autre. Le fait que les deux existent, c'est censé se dissuader mutuellement de faire la guerre. Et en même temps, tout le problème de la dissuasion, c'est que ça repose sur un équilibre qui est très précaire. Et ça alimente aussi les craintes. C'est-à-dire, plus vous avez un adversaire qui vous paraît fort, plus vous voulez vous renforcer pour le surmonter en cas de guerre. Et donc, on est dans une course aux armements. Qui s'est évidemment reproduite après 45 dans la guerre froide, mais là la dissuasion entre guillemets a marché. Il y a pas mal de moments où c'est pas passé loin quand même la catastrophe, il y en a eu plusieurs, mais bon, il y a quelques moments où la dissuasion a marché parce que là l'arme nucléaire faisait qu'on savait exactement quelle serait la conséquence, et la conséquence était inacceptable des deux côtés. Donc la dissuasion qui n'a pas fonctionné en 14 a fonctionné après 45 sous la forme de la dissuasion nucléaire. Ce dont on peut ne pas se réjouir pour plein de raisons, mais en tout cas ça a plus ou moins fonctionné. Aujourd'hui on est dans un monde qui est différent, beaucoup plus compliqué, avec des acteurs nouveaux, avec une configuration qui là commence à se rapprocher de celle de la guerre froide, et je pense que c'est ça qui fait que Poutine développe ses ambitions, c'est que il reste dans ce modèle de la dissuasion où il sait très bien que personne ne peut déclarer la guerre à la Russie. Voilà, tout simplement, c'est une telle puissance, y compris une puissance nucléaire, qui fait que personne ne va assumer de lui déclarer la guerre, à plus forte raison pour un lieu comme la Crimée, que personne ne considère comme particulièrement devant être particulièrement défendu.
Qui a été russe jusqu'à temps que Khrouchtchev décide de...
Donc ça explique aussi que beaucoup de gens ferment les yeux sur cette question. Encore une fois, moi j'ai du mal à interpréter ce qui s'y passe. Mais... Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Oui, alors, attendez, parce que comme c'est enregistré, dans l'enregistrement, on va avoir les réponses sans avoir les questions, ça peut être un peu gênant. Donc, on a un micro, là, voilà.
Oui, sans vouloir défendre ce qui se passe côté russe, donc Poutine, pour l'histoire de la Crimée, du côté donc de l'OTAN, on a l'exemple...
Parle bien dedans.
Comme ça, tu vas...
Comme ça.
Il marche,
ouais. Oui.
Oui. Bon, choisis
le noir. Je choisis le noir.
Oui, donc en fait, aujourd'hui, Poutine renvoie les Occidentaux au problème du Kosovo. Il est vrai qu'à l'époque, les grandes puissances ont décidé de détacher le Kosovo de la Serbie, alors que le Kosovo était le berceau même culturel de la Serbie. Et donc le pays a été séparé. On n'a pas demandé l'avis des gens qui habitaient en Serbie ou dans l'ex-Yougoslavie. Il y a eu un référendum soi-disant d'autodétermination sans pour cela que les autres puissent se prononcer. Et aujourd'hui, pourquoi les Ukrainiens devraient donner une réponse alors que la majorité des Criméens se prononcent en faveur du rattachement à la Russie?
Le problème de ce type de référendum, c'est qu'ils sont rarement faits dans des conditions de sérénité telles qu'on puisse les juger toujours légitimes, aussi bien au Kosovo à l'époque qu'en Crimée aujourd'hui. Alors après, toute la question de l'appartenance à la Serbie du Kosovo est quand même une question très controversée, parce que la notion de berceau culturel, on peut l'étendre démesurément. Hein. C'est-à-dire que pour les Allemands du Troisième Reich, la Crimée était leur berceau culturel, parce que c'est de là que venaient les Goths de l'Antiquité, qui étaient les ancêtres lointains des peuples germaniques. Donc la notion de berceau culturel, moi, j'ai tendance à l'écarter comme historien, parce qu'on peut lui faire dire énormément de choses. Hein, on peut dire que voilà, le berceau culturel de la nation française, ce serait de l'autre côté du Rhin, parce que les Francs venaient de là-bas. Bon, on pourrait justifier toutes sortes de prétentions territoriales en parlant de berceau culturel. Donc, pour moi, c'est très compliqué, disons, de manipuler cette notion. Mais bon, là, on est dans des considérations peut-être qui nous éloignent un peu de 14, sauf pour la question serbe, parce que ce dont vous parlez renvoie quand même à une des données de la crise de 1914, une donnée qui a d'ailleurs été récemment réévaluée à la hausse par notamment l'historien australien Christopher Clark, c'est le fait que la Serbie, dans ce jeu européen, dans ce jeu de grande puissance, est quand même un trublion, est quand même un État particulièrement déstabilisateur du fait de sa politique officielle, hein, ses dirigeants qui ont mené les guerres balkaniques de 1912-1913 visant à croître le territoire, et puis du fait aussi de tout son système parallèle de services secrets, d'agents plus ou moins payés par le gouvernement, plus ou moins infiltrés par le gouvernement, qui ont pour but de déstabiliser l'Autriche-Hongrie au nom de la grande nation serbe, et c'est eux qui vont armer la main de Princip, qui est le meurtrier de Sarajevo. Donc là, l'attentat de Sarajevo n'est pas un pur hasard. Hein. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. C'est quand même un élément qui est lié à un nationalisme agressif en Serbie, qui est en partie commandité par certains milieux politiques serbes. Et du coup, ça renvoie quand même à cette question, à cette configuration très particulière dans les Balkans. Et puis ça renvoie plus largement au problème du nationalisme agressif comme cause de la guerre, qui est quand même une des causes, évidemment, tout à fait centrale. Il y a le jeu des alliances, c'est sur le plan géopolitique, mais évidemment, ce jeu d'alliances ne devient aussi dangereux que parce qu'à l'intérieur de ces alliances, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont gagnés par les idées du nationalisme, et donc pour qui recourir à la guerre peut être un élément justifiant, disons, un élément soutenant leur politique.
Voilà, en quoi il faut se rappeler quand même que défendre le nationalisme à tout craint, hein, eh bien voilà, ça nous mène dans des situations. Je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prétendants politiques, d'ailleurs de plus en plus de bords, qui jouent ce jeu de monter les gens les uns contre les autres. Et je vois avec les Roms, etc. Bon, nous, en tant qu'anarchistes, on a réglé le problème depuis longtemps, puisque nous sommes contre les frontières. Donc le nationalisme, il se résumera juste à respecter tout un chacun au niveau de sa culture, en disant que c'est un partage à apporter aux autres. Mais par rapport justement à ces problèmes qui suscitent la guerre, enfin qui sont le patriotisme, etc., qui sont des facteurs de guerre, il y avait avant 14 un fort mouvement, notamment dans le mouvement ouvrier, pacifiste. Et ça s'est arrêté avec l'assassinat de Jaurès. Hein, et voilà, est-ce que toi tu pourrais nous donner des informations un peu, parce que bon, il y avait quand même des appels à dire, ben voilà, si les gouvernants déclenchent la guerre, eh bien les prolétaires des deux côtés de la frontière, notamment en France et en Allemagne, eh bien feront grève et refuseront d'aller défendre les intérêts des industriels, puisque c'était des militants socialistes qui défendaient ces thèses. Il y a qu'à ce moment-là, socialistes, attention, hein, socialistes au temps où ils étaient socialistes, hein, pas rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, je précise quand même.
Alors cette question, bon, il y a plusieurs dimensions. C'est une question qui est travaillée depuis très longtemps, parce que c'est évidemment le grand échec, hein, de l'international et du mouvement ouvrier d'avant 14. Dans le livre d'ailleurs, on a reproduit un beau texte de Rosa Luxembourg qui en 1915 et c'est publié en 1916 s'interroge sur l'échec de la social-démocratie et dit voilà, c'est le défi des forces socialistes d'aujourd'hui de penser cet échec et de le réparer. C'est une question qui est ancienne. Il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il est très clair qu'il y a une part des milieux ouvriers, et y compris une part des milieux et dirigeants socialistes, qui n'a pas renoncé à l'idée de nation. Hein, quand on prend les ouvriers de Krupp en Allemagne, bon, bah, les ouvriers de Krupp, lorsqu'ils ont accompli leurs 20 ans de maison, ils ont un petit uniforme avec des obus en bouton de manchette, alors qu'ils sont ouvriers d'armement. Donc l'idée de nation, elle n'est pas absente de l'ensemble des milieux ouvriers et même de l'ensemble des milieux socialistes. De la même manière, du côté des dirigeants, les dirigeants en 14, au moment où la guerre est déclarée, et encore une fois, c'est une guerre que personne n'anticipe vraiment et qui s'impose un peu à tous dans la surprise et dans le chaos des décisions, dans une sorte de tourbillon événementiel dont on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais c'est en l'espace d'une semaine, hein, que les choses se précipitent. Ces dirigeants, ils ont comme choix possible soit l'appel à la subversion, l'appel effectivement au sabotage, l'arrêt des trains, etc. Mais ce qui les renvoie quand même dans l'illégalité et ce qui ouvre, on pourrait dire, un front intérieur difficile à assumer. Difficile à assumer en particulier en Allemagne, parce qu'en Allemagne, le Parti socialiste allemand, le SPD, a été longtemps illégal. Sous Bismarck, hein, il y a eu des lois antisocialistes très claires qui interdisaient le Parti socialiste, qui interdisaient son journal Vorwärts, qui n'était pas diffusé, etc. Et c'est avec un long travail d'installation, d'enracinement de la société allemande que la social-démocratie, le Parti social-démocrate allemand, a pu se réinstaller, a pu devenir un parti de masse, un parti qui comprenait, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais des millions de membres et des dizaines de millions d'électeurs. C'est la première force politique aux élections qui précèdent la guerre. Donc ça aurait voulu dire s'opposer à la guerre, ça aurait voulu dire renoncer à tout ça, rebasculer dans l'illégalité, perdre tous ces acquis qui étaient aux yeux des socialistes allemands des acquis très importants, parce que ça leur permettait de faire avancer leurs idées. Ça avait permis d'ailleurs à l'Allemagne d'être un des pays qui avait fait le plus pour les retraites ouvrières, pour un certain nombre d'avancées de protection sociale, parce que les sociaux-démocrates étaient une force politique avec laquelle il fallait compter. Donc s'opposer à la guerre, ça voulait dire renoncer à tout ça et être étiqueté traître à la nation. Parce qu'évidemment, l'entrée en guerre, ça veut dire aussi que l'opinion opposée à la guerre, qu'on a le droit de formuler ici entre nous, en temps de paix, qu'on a le droit de formuler en juillet 14, tant que la guerre n'est pas déclarée. À partir du moment où la guerre est déclarée, si vous êtes opposant à la guerre, vous êtes dans l'illégalité et vous êtes susceptible d'être arrêté, d'être questionné, vos écrits sont censurés, etc. Autrement dit, c'est pas du tout une position simple à assumer. Donc c'est pour ça que rétrospectivement, quand on parle de la trahison de la social-démocratie, de la non fidélité à leurs principes, il faut quand même restituer une situation dans laquelle c'est pas du tout facile de s'opposer à la guerre. S'opposer à la guerre, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui le font sont toujours très minoritaires. Même si, dans leur opinion, on peut penser qu'il y a plus d'opposants que ceux qui se manifestent. Ceux qui se manifestent sont toujours très peu nombreux, parce que c'est toujours très difficile. Bon. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. En France, tu l'as dit, Jaurès est assassiné, et c'est quand même un événement qui bouleverse tout le monde et qui prive de direction, qui prive de messages politiques une grande partie des militants qui se retrouvent un peu désemparés. Et puis, il y a un autre niveau encore, c'est que la guerre est partout présentée comme une guerre défensive. Et il y a une part de justification, il y a une part de réalité dans certains cas, mais en tout cas, on dit partout que c'est une guerre défensive. Or, cette guerre défensive, chaque mouvement ouvrier dans chaque pays a de bonnes raisons, entre guillemets, de la mener. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, par exemple, l'adversaire, c'est qui ? L'adversaire, c'est l'autocratie russe. Or, les sociodémocrates, le modèle social qu'ils défendent, c'est évidemment pas le tsarisme et sa violence et sa brutalité d'état policier, etc. Autrement dit, lorsqu'ils participent à la guerre, ils ne participent pas dans leur esprit, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils se justifient, à une guerre impérialiste. Ils participent à une guerre de défense d'un certain nombre d'acquis, y compris d'acquis sociaux, y compris d'acquis du mouvement socialiste et ouvrier. Même chose pour les Français, pour qui la République, défendre la République, c'est malgré tout défendre un régime qui a rendu possible le droit de vote, le suffrage universel. Alors même si évidemment dans le mouvement ouvrier on peut être partagé sur énormément de choses, on parle de démocratie bourgeoise dans certains courants, d'autres, et Jaurès en a été l'instigateur, accepte davantage la République, mais en tout cas on considère qu'il y a un certain nombre d'acquis encore une fois à défendre face au militarisme prussien. Donc l'idée que même en s'opposant à la guerre n'est pas une guerre impérialiste mais une guerre défensive, et défensive pour certains principes que même en tant que membre du mouvement ouvrier socialiste on sent menacé, c'est une idée qui est relativement partagée, avec un élément peut-être supplémentaire, c'est que pour que l'idée d'opposition à la guerre fonctionne, il faudrait que tout le monde fasse de même. Il faudrait que la grève générale soit déclarée dans les deux pays le même jour, entre la France et l'Allemagne, par exemple. Or, rien n'a jamais été vraiment prévu pour ça. Ça a toujours été de l'ordre du discours. Il n'y a aucun préparatif réel qui avait été fait pour saboter les trains, pour faire sauter les usines, les stocks de munitions ou je ne sais quoi. Donc, on était davantage dans l'ordre d'un idéal de paix qu'on exprimait de cette manière-là, et puis aussi dans l'ordre de la pression qu'on faisait peser sur les gouvernements. C'était une manière de faire pression sur eux en leur disant « Si vous êtes assez fous pour déclencher une guerre, alors le monde ouvrier se lèvera comme un seul homme pour s'y opposer ». Mais en réalité, même les leaders qui disaient ça savaient qu'il n'y avait pas de préparatifs qui permettaient vraiment de le faire. Donc je pense que voilà, c'est tous les éléments qu'on peut essayer de mobiliser pour expliquer un petit peu ce phénomène.
Oui, et puis il y avait une rivalité aussi entre le mouvement ouvrier français et le mouvement ouvrier allemand, notamment qui a permis de justifier un petit peu la position d'un certain nombre d'anarchistes sous l'étiquette de, on a appelé ça le manifeste des 16, ils étaient 15 d'ailleurs, 16e nom, c'était le nom du village où ça a été signé, mais notamment avec des gens comme Jean Grave, Kropotkine, qui ont rejoint ce qu'on appelait l'Union sacrée, alors que pour des militants libertaires, appelés à participer à la guerre, c'était simplement pas possible. Et en fait, ils ont justifié ça par le fait que si l'Allemagne gagnait, en fait, ça serait le sentiment germanique avec Marx, etc., qui l'emporterait sur le mouvement ouvrier et qui induirait qu'il y aurait une position autoritaire, alors que si c'était la France qui gagnait, c'est-à-dire les pays plutôt latins, eh bien, au niveau, ce serait plutôt un esprit de liberté, de... Bon, nous, on dit plus près de Bakounine, puisque, bon, au sein de la Première Internationale, ça s'est joué entre Marx et Bakounine, Bakounine qui défendait les positions de Proudhon. Et voilà, donc, ce qui a fait que même dans les mouvements radicaux, anarchistes, etc., il y a un certain nombre de militants qui ont opté pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire ne pas s'opposer frontalement à la guerre et dire, eh bien voilà, c'est un moment à passer et puis peut-être qu'on pourra transformer la guerre en révolution, quoi. Alors que bon, mais je voulais aussi peut-être revenir, parce que au moment où la guerre, notamment en 1915, quand ça a été arrêté, tout le monde s'est enterré dans les tranchées, il y a eu un mouvement pacifiste qui a redémarré en Angleterre, même à Berlin. Et puis, bon, ça s'est terminé par notamment, j'allais dire, l'arrestation de Limnech, qui était un leader, comment on peut dire... Oui, révolutionnaire pour faire court, parce qu'il y a tellement de... On se rentre dans les détails. Et puis, bon, tout le Spartakis, enfin, tous les personnes qui auraient pu opter pour défendre une position de retour à la paix ont été, par les gouvernants des différents pays, complètement éliminés, quoi, arrêtés.
Oui, avec des nuances, avec une chronologie variable. Il y a des petits espaces de liberté quand même. Quand on est parlementaire, c'est plus simple. Par exemple, Pierre Brison, député français, qui va prononcer un grand discours en 16 pour refuser de voter les crédits de guerre. Mais c'est sûr que ce n'est pas une position facile. Hein. Limnech, si je me souviens bien, il est arrêté en 17 et pas en 15. C'est Rosa Luxembourg, ouais, qui est en prison en 15. Ouais. Mais il faudrait que je revérifie. En tout cas... voilà, il faut redire à quel point les postures d'opposition ne sont pas des postures simples. Alors ça, c'est quand on parle des grands dirigeants, quand on parle maintenant des soldats ordinaires. Que peut faire un soldat ordinaire au moment de la mobilisation pour s'opposer? Il n'y a pas 36 solutions. Il y a la désertion en pays neutre, voire à l'ennemi. C'est quand même compliqué à envisager, à plus forte raison, si on a des attaches familiales, professionnelles, si on est inséré dans, de, voilà, dans une sociabilité, si on est absolument sans attache, bon, bah, la désertion peut être un choix. Mais au-delà de ça, c'est quand même pas du tout évident à formuler. Et puis, ensuite, il y a des formes de mobilisation sans aile. En fait, c'est ce que vont faire beaucoup d'opposants, entre guillemets, à la guerre ou de gens qui auraient pu s'y opposer dans d'autres circonstances. C'est qu'ils vont endosser l'uniforme et puis ils vont endosser l'uniforme, mais sans jamais être dupes ou sans jamais, finalement, être... Des participants ardents. Hein. L'exemple le plus connu, c'est Louis Barthas. Hein. Louis Barthas, il est antimilitariste. Il est membre de la section SFIO de Périac-Minervois dans l'Aude, tonnelier, artisan très politisé, etc. Ben, il fait la guerre. Il fait la guerre comme les autres. Il la déteste. Il passe son temps à rédiger des carnets dans lesquels il décrit les brutes galonnées qu'il commande et tout ce que la guerre lui inspire, à quel point pour lui c'est une dégradation de tous ses sentiments et de toutes ses aspirations. Mais il fait la guerre quand même, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment d'autres possibilités. Donc au niveau des individus, le plus basique, c'est quand même très très compliqué d'échapper à la guerre.
On va profiter de cette transition.
Oui, Louis Barthas reparaît en édition du centenaire avec un texte un petit peu augmenté, avec je crois une nouvelle préface de Rémi Casals.
Justement, ça va faire une bonne transition parce que vous consacrez un chapitre un petit peu à ce qui s'est écrit, ce qui s'est traité au niveau documentaire, historique, aussi bien au niveau des livres, au niveau du cinéma. Donc, il y a beaucoup de références. On commence par les incontournables.
Hein, on va peut-être faire circuler le livre. Je vais
Oui, on peut. Oui,
je vais faire passer mon exemplaire.
Oui. On peut reprendre peut-être la présentation. Il y a plein de chapitres, et notamment, il y en a un qui est consacré justement à comment on l'a traité.
Oui, alors il y a, faut que je me trompe pas, je vais prendre la table des matières, ce sera mieux. Il y a un premier chapitre, tu l'as dit, qui est un récit, hein, de 14 à 18 ou 19. Voilà, on raconte la guerre du début à la fin, et même de l'avant-guerre à la fin. Ensuite, on étudie les lieux, parce que c'est des lieux de combat et aussi des lieux de mémoire. Peut-être qu'on en reparlera. Il y a Crâne, d'ailleurs, dans le livre qui figure, une douzaine de lieux comme ça qu'on a choisi parce que la guerre y est présente, y compris des lieux qui sont loin du front, hein, par exemple Saint-Nazaire, parce que les troupes américaines sont arrivées par là, et du coup, il y a des monuments, il y a une mémoire locale, etc. Donc, voilà, différents lieux de la guerre. Des personnages, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Des mots de la guerre qui sont aussi bien les mots de l'argot des soldats que des expressions comme « on les aura », expression de l'époque, on essaie d'expliquer. Des objets, un masque à gaz, un artisanat de tranchée, enfin des objets d'artisanat de tranchée, des documents, j'en parlais tout à l'heure avec le texte de Rosa Luxembourg, mais on a aussi mis des documents très différents, hein, des textes, par exemple il y a un texte de Mussolini qui appelle à l'entrée en guerre, parce qu'évidemment il faut montrer toutes les facettes de l'événement, pas que les opposants. Et puis trois derniers chapitres qui sont un peu effectivement sur ces traces, de trois manières différentes, le travail des historiens, comment les historiens racontent la guerre, avec quelles variantes, avec quels angles d'approche, les mémoires, comment la guerre est commémorée, quels sont les monuments, quels sont les sites, quelles sont les façons dont la guerre est transmise. Et puis, le dernier, c'est sur les œuvres d'art. Effectivement, là, on parle de la littérature, on parle du cinéma, on parle de la peinture, on parle de toutes ces approches sensibles, artistiques, qui transmettent aussi la guerre. Donc voilà, neuf en fait, voies d'entrée différentes dans un même événement.
Et est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à dire de nouveau en tant qu'analyse ou en tant que découvrir de nouveaux documents, parce qu'aujourd'hui on assiste notamment à un tas de gens qui, les petits-enfants, retrouvent des carnets et éditent. Là, il y a, en librairie, ça foisonne. Bon, c'est pour ça que je tenais à souligner un petit peu le côté original de l'approche de la Grande Guerre de ce livre. Mais est-ce qu'il y a tu cites d'ailleurs que des écrivains parlent notamment au niveau du polar, il y avait la bande dessinée avec Tardy, mais au niveau du polar, tu cites que dernièrement il y avait Pêchereau avec Transcaille, Pêchereau on l'a fait venir aussi, hein. Il y avait Didier Deninck, et puis récemment Thierry Boursy qu'on a fait venir aussi là, qui a fait une série un gendarme et soldat en même temps. Donc, est-ce que tu penses qu'il est encore possible de trouver des documents
Alors, des documents, il n'arrête pas d'en paraître, et à la limite, on en a trop. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le temps de lire tout ce qui paraît. Voilà, je sais pas, il y a 50 nouveaux carnets de poilus qui sortent chaque année. Bon, c'est vraiment l'avalanche, et à la limite, on en a trop. Mais en fait, ces documents, pour être intégrés à des nouvelles analyses, ils dépendent des questions qu'on leur pose. Et là, je suis partagé. D'un côté, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses maintenant qui sont connues. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut dire « je vais apporter la vérité sur les soldats qui partent en permission pendant la guerre », pour lui dire bah « maintenant, il y a une historienne qui l'a fait, elle a fait une thèse en 2005, publiée en 2013, Emmanuel Cronier, les permissionnaires dans la guerre ». Bon voilà, il y a des sujets qui sont aujourd'hui quand même bien balisés, pas tous, hein, mais on commence quand même, depuis 100 ans que les gens y réfléchissent, on commence quand même à avoir bien identifié un certain nombre de sujets et qui peuvent être considérés comme connus. Ceci dit, il y a toujours des questions qu'on peut reposer ou qu'on peut poser de manière différente. Mon collègue et ami Nicolas Mario a récemment fait un livre qui s'appelle « Tous unis dans la tranchée, point d'interrogation » et qui est un livre très intéressant parce qu'il reprend carnet de guerre, des journaux, y compris de gens très connus, gens comme Marc Bloch, Dorgelès, Barbus, etc. Bon, on pensait avoir tout dit sur ces gens-là. Mais lui, il les relit. Et il est relié avec un angle que personne n'avait pris auparavant. Ça vient d'un travail qu'on avait d'abord fait tous les deux et puis l'a poursuivi dans ce livre. Et cet angle, c'est comment les soldats lettrés, intellectuels, bourgeois, les écrivains, les professeurs d'université, etc., vivent dans les tranchées avec leurs camarades prolos, paysans, avec les artisans, les domestiques, avec tous les gens qui sont les gens ordinaires dans les tranchées. Et en fait, ce qu'il montre, et chose que personne n'avait vraiment soulevé jusqu'à lui, c'est l'incroyable distance de classe qui reste présente entre ces gens très lettrés et bourgeois et cultivés de la Troisième République comme Henri Barbus. Sa femme quand même lui envoie des guêtres par la poste dans un colis postal alors qu'il est au front. Elle lui envoie des guêtres et lui il lui dit je veux bien des guêtres mais pas un modèle trop chic, pas trop officier parce que déjà je sors un peu du rang, je suis déjà quand même très, très marqué par mon apparence, par ma manière de parler, etc. Il faut quand même pas que je sois pris pour quelqu'un de trop distant des soldats. Et donc c'est une sorte de partition très, très étonnante qui se joue entre ces soldats qui sont pas du tout des soldats ordinaires et puis les gens plus ordinaires qui les entourent et les distances qui restent entre eux, c'est quelque chose de fascinant à lire. Donc là, typiquement c'est pas des textes neufs, des textes qu'on connaît depuis longtemps, mais le renouvellement de la question permet de s'y intéresser. Alors il y a quand même un domaine où il y a des nouvelles choses, je pense, à dire et à écrire, c'est précisément le caractère mondial de la guerre. Les troupes coloniales, on en parle, mais il n'y a pas un seul livre qui est paru sur les troupes coloniales parmi les 200 qui sont sortis depuis 2013. Pas un seul. Voilà, il y en aura sûrement, hein, mais pour l'instant, il y en a peu. On a par exemple aucun livre, aucune recherche récente et à jour sur les soldats nord-africains de l'armée française. Gilbert Ménier en parle dans sa thèse sur l'Algérie pendant la guerre, mais il parle surtout de ce qui se passe en Algérie même. Il parle peu de ce qui se passe au front. Autrement dit, il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles des recherches seraient possibles de les mener. Même chose pour le front oriental. Hein, parce que très longtemps, en particulier pendant la période communiste, les archives des pays comme la République tchèque, la Pologne, étaient des archives difficiles d'accès. Aujourd'hui, elles le sont moins. Elles le sont toujours un peu du fait de la langue. Évidemment, c'est des langues compliquées souvent à travailler pour des chercheurs occidentaux. Mais malgré tout, là, il y a tout un gisement de documents qui permettra sans doute de renouveler les approches, notamment du front oriental.
Tout à l'heure, tu parlais des mots de la guerre 14, la Grande Guerre. Je rappelle quand même que tu as sorti un que sais-je sur les mots, mais est-ce que tu es au courant qu'il est indisponible ?
Ah non, tant mieux, c'est bien. Ça veut dire
on voulait en avoir pour ce soir, on a fait plusieurs demandes, et bon, voilà, c'est indisponible. Donc à toi d'intervenir auprès de ton éditeur pour que ce soit de nouveau disponible.
Je vais leur dire.
Et voilà. Oui, pour les personnes qui voudraient, avant d'être complètement dégoûtées par l'avalanche d'infos qu'on aura sur le centenaire...
Comme moi-même, je suis en train de l'être un petit peu, là, on est un peu saturé par 14-18.
Oui, c'est vrai qu'on vous entend partout, sur les radios, sur les télés, etc. Même à Merlieu. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous donner quelques textes de base comme ça qui donnent une idée, Il y a, bon, effectivement, moi je pense que voilà, Bartas.
Des textes de soldats, des témoignages.
Oui, de témoignages comme ça sur le. Bon, quelques livres comme ça que tu nous conseillerais. Moi, je pense qu'il bon, il y a ceux de 14, Genevoix peut-être.
Oui, Genevoix, c'est un très beau livre. C'est toujours un très beau livre. Il y a le livre de Léon Vert qui s'appelle Clavel Soldat,
oui.
qui est pour moi un très très beau roman de guerre dans un style vraiment magnifique. Personnellement, je suis pas fasciné par la littérature 14-18 et par les romans de guerre. Par exemple, les romans d'Orgelès m'ont jamais, les Croix de Bois, ça m'a jamais passionné. De d'Orgelès, je pense que je préfère Le Réveil des Morts, qui est un roman plus fort sur la reconstruction et notamment qui a beaucoup d'écho ici parce qu'il évoque voilà, justement la reconstruction des régions du front. Et puis, comme témoignage de guerre même, il y en a beaucoup. Il y a le témoignage qu'avait publié Nicolas Fenchat et Rémi Casals des frères Papillon. Enfin, exactement la fratrie Papillon, parce qu'il y a aussi la sœur qui écrit, donc c'est plusieurs frères et sœurs qui s'écrivent pendant la guerre. Et c'est intéressant parce que c'est trois niveaux différents. Il y en a un qui est artisan, qui écrit un français très, très correct, voire châtié. Il y en a un autre qui a un niveau plus intermédiaire. Puis il y en a un qui est tout à fait basique et qui écrit avec d'énormes fautes d'orthographe, qui écrit dans une écriture phonétique. Et la correspondance des trois frères se croise. Il y en a un qui sera tué pendant la guerre. Et ça donne la vie d'une famille pendant la guerre de manière très, très frappante. Voilà, bon, il y en a évidemment des dizaines d'autres. Je ne saurais pas dire quelle est la lecture récente la plus marquante.
Je sais pas, si je me permettais, je conseillerais le livre de Thierry Secrétin, hein, qui en fait une correspondance entre deux hommes, père et fils, qui servent la même pièce d'artillerie la femme du fils. Mon fils sont tous les deux amoureux.
Oui, comment
c'est Thierry Secrétin.
Oui, mais le livre, il s'appelle...
Aimé, il est là, d'ailleurs.
Oui, je l'ai lu aussi.
Tous les livres qui ont été...
Le temps de nous aimer, voilà. Le temps de nous aimer.
Moi, je pense que bon, c'est bien écrit. En fait, ils décrivent en même temps la vie.
Et là, je pense que Dominique est surtout fasciné par le mimétisme. Non, un petit quelque chose, quand même.
J'avoue que j'ai.
Et en plus, c'est le père.
Maintenant qu'on me le dit.
Le père est un vieux communard, si je me souviens bien.
Oui.
Et donc, c'est des personnages très intéressants.
Ouais.
Et effectivement, la correspondance est intéressante parce que le père et le fils sont artilleurs dans la même batterie et tous les deux amoureux de la même femme. Et le tout en bonne entente. Donc, c'est quand même un texte assez particulier. Et puis, les photos sont belles. Ah ouais, c'est un beau livre.
Ouais, c'est vraiment. Bon, je trouve que bon, il est récent, quoi. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient, parce qu'on va peut-être écourter un peu le temps qu'on fait sous cette forme-là, de façon à pouvoir continuer en permettre de autour de discuter, de faire dédicacer des livres, puisqu'il doit partir. Donc là, ça nous ferait quand même
40 minutes,
une quarantaine de minutes, donc on peut encore passer 5 minutes à. Alors, tu peux passer
au moins
le micro derrière,
bien sûr.
Oui, je voudrais juste dire une chose. Tu as parlé de guerre mondiale, c'est sûr qu'on va avoir une overdose du pollu dans sa tranchée. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quand même beaucoup plus d'informations. Parce que moi, j'ai eu un grand-père qui est parti dans la marine en tant que mécanicien et qui a fait les Dardanelles. Et il a été gravement blessé parce que son cuirassier a pris feu et il a été rapatrié sur Toulon et tout ça. Et ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on est toujours en train de parler de Verdun, le chemin des dames, etc. etc. C'est qu'on n'est pas assez d'informations et même de témoignages par rapport à tous ces gens-là, quoi, qui sont partis beaucoup plus loin.
Ouais, c'est absolument vrai. C'est quelque chose qui commence un peu à changer parce que dans les dernières années, il y a eu quelques parutions. Notamment, il y a un livre qui est le témoignage d'Arnaud Pomiro. Qui est un militaire effectivement qui est sur le front d'Orient, je crois qu'il est d'abord aux Dardanelles puis ensuite à Salonique. Donc il y a un certain nombre de témoignages qui paraissent, mais effectivement c'est quelque chose qui n'est pas très très présent hein, dans la production historique autour de 14-18, alors que c'est évidemment des expériences très importantes. Moi, une chose qui me frappe, c'est la quasi-absence de la marine et des expériences autour de la marine, alors que quand on y pense, c'est quand même quelque chose de très différent, bien sûr, mais les gens qui s'embarquaient, y compris sur des cargos, c'est-à-dire y compris pas sur des navires militaires, mais qui étaient simples matelots, matelot sur un cargo avait une chance de périr au fond de l'Atlantique parce qu'un sous-marin allemand allait les croiser leur route et puis allait les abattre d'une torpille. Et on sait que les sous-marins allemands n'ont pas toujours adopté les signaux nécessaires à la guerre en mer. Normalement, on signale qu'on va couler, donc on donne le temps à l'équipage d'évacuer le bateau. Ça n'a pas toujours été fait, loin de là. Et du coup, c'est des expériences effectivement qui figurent assez peu dans le récit de la guerre, mais en même temps, l'intensité et le nombre des expériences de guerre sur le front pour le front ouest est tellement intense, est tellement fort que évidemment ça a tendance à écraser un peu tout le reste. Mais là, je vous rejoins complètement. Hein. Il faut pouvoir équilibrer un peu le regard. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire ici.
Il y a quand même un tas d'opérations, notamment les débarquements, justement.
On parle des Dardanelles, on parle de l'armée d'Orient, on parle de la Macédoine, on parle de ces lieux-là, effectivement, qui sont des lieux très, très importants.
Le Japon, la Chine.
Et d'ailleurs, avec un caractère assez étonnant quand on lit ces témoignages, c'est que souvent les soldats qui vivent ça, il y a dans leur texte, il y a une dimension guerrière, évidemment, mais il y a aussi une dimension ethnographique, c'est-à-dire il y a aussi une dimension de récit de voyage, de carnet, d'impression, avec des descriptions de Salonique, ses odeurs, les petits garçons qui viennent cirer les chaussures de l'officier contre un sou, etc. Le mélange des populations, moi je me souviens d'un texte où un soldat décrit la queue devant le bordel à Salonique et il dit voilà, tout le monde se masse devant avec voilà des Albanais, des Serbes, des Monténégrins, des Croates, des Français, des Bulgares, etc. Tout ce beau monde est mélangé, ils vont tous au même lieu. Bon, voilà, c'est cette volonté de restituer des expériences qui ne sont pas que des expériences de guerre, mais c'est des expériences de voyage, de découverte de l'ailleurs, et qui m'amène aussi à dire que, paradoxalement, il y a des gens pour qui la guerre a été un bon souvenir. Il y a des gens pour qui ça a décloisonné les horizons, pour qui ça a donné des possibilités. Il y a des gens évidemment qui sont mariés avec leur infirmière, ça c'est le cas atypique, ou qui ont fait des rencontres au front. Pour ceux qui en sont revenus, la guerre évidemment pour le plus grand nombre ça a été l'horreur et le traumatisme et le plus jamais ça, mais c'est aussi quelque chose qui leur a donné parfois des compétences techniques. Ils ont appris quelque chose à l'armée, ils ont appris à se servir d'un poste de radio et puis ensuite ils ont pu monnayer ça sur le marché du travail un peu plus tard. Donc voilà, il y a ces dimensions-là, sont encore des dimensions difficiles à explorer par les historiens parce qu'en plus c'est des choses un peu éparses comme ça. Ça se prête mal à un grand récit, mais c'est des choses qu'il faudrait aussi pouvoir restituer.
Oui, le droit des femmes à voter en Angleterre, en Allemagne, qui ont été le résultat. Et en Italie aussi, je crois, non ?
En Italie, je ne crois pas.
La Belgique, je crois.
Je ne crois pas en Italie, mais il faudrait vérifier.
Voilà. D'autres questions ? Sinon, on passe à... Ah, peut-être là-bas, tu peux passer le micro.
Juste derrière vous, il y a quelqu'un qui voulait parler aussi.
Attends. Une seconde. Là-bas d'abord, et ensuite...
Voilà. Ouais.
C'est bon.
Ça va aller. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour le bouquin, parce que j'ai eu l'occasion de le parcourir. Je ne l'ai pas lu en entier, mais il y a des très beaux articles. C'est incisif et c'est vraiment d'une très, très agréable lecture. Et c'est justement l'aspect panoramique qui est drôlement intéressant. Je voulais vous demander comment vous pouvez expliquer d'une part, l'engouement autour de la Première Guerre. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, c'est quelque chose d'assez étonnant quand même, d'assez troublant, de mémoire, je pense que c'est la première fois qu'un conflit, en tout cas c'est pas du tout la même approche que le second conflit justement, et pourtant il a été tout aussi cruel sur un plan militaire, voire peut-être plus. Et puis d'autre part, au niveau de l'historiographie justement, où en est un peu parce qu'on parle toujours de l'école péroniste par exemple, ou vous, peut-être représentant d'une autre vision, peut-être plus qui se penche plus sur l'humain ou sur l'intime, ou une vision un peu plus recentrée sur le soldat, le combattant. Alors qu'est-ce qu'il en est là à l'approche du centenaire de ces deux écoles, mais je pense qu'il y en a bien plus de toute façon qui explorent le domaine.
Alors c'est vrai, je parle d'abord de la dernière question, c'est vrai qu'il y a une controverse qui a été forte et que personnellement et avec d'autres, on essaie de maintenir parce qu'on trouve que c'est pas du tout une controverse futile. Souvent les universitaires ont tendance à dire oui, les controverses, c'est beaucoup de bruit pour rien, la vérité quelque part entre les deux, etc. Moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'il était très utile à un moment de dire l'idée que les soldats étaient consentants à la guerre et l'idée que la guerre les a tous brutalisés est une idée fausse, voilà, tout simplement, et qu'il faut le prouver, qu'en le prouvant, on arrive en plus à décortiquer de manière peut-être plus intéressante les mécanismes de la guerre qu'en disant les soldats étaient tous pris d'un grand élan patriotique et tous consentants à la guerre, ce que ont répété pendant longues années des historiens, notamment de l'historial de Perron. Donc ça, c'est la controverse qui a eu lieu. Moi, je tiens, disons, mes positions dans cette controverse. Ceci dit, les deux blocs ne sont pas monolithiques parce que, bah, en fait, il y a pas mal d'historiens qui ont fait leur thèse avec l'historien de Perron, avec qui on discute, avec qui on a des relations amicales. Il y a des gens qui sont plus modérés dans leur façon de voir les choses, avec qui en tout cas on peut discuter. Puis en plus, le centenaire, ça nous amène à nous croiser tout le temps et donc on n'a pas d'intérêt non plus à se claquer la porte au nez et à s'envoyer des noms d'oiseaux. C'est pas non plus, moi, c'est pas du tout mon but. J'ai pas d'animosité dans cette histoire. Je recherche pas cette dimension-là. Ça m'intéresse pas d'être dans l'hostilité. Enfin voilà, c'est pas du tout ça l'idée. Mais intellectuellement, voilà, moi, toutes les critiques que j'ai pu adresser aux thèses, notamment du consentement, je les maintiens. Pour moi, c'était important de le dire. Et petit à petit, ça fait son chemin. Et je pense que ça a aussi amené des historiens à qui on s'est opposés à nuancer un peu leur position et à revenir à quelque chose de plus raisonnable sur certains points. La deuxième question, la première, c'était pourquoi cette présence de la guerre ? C'est pas évident d'y répondre. Je dirais même c'est d'autant moins évident que moi, tout en étant historien de 14-18, je suis pas un passionné de 14-18. C'est-à-dire, je suis pas un collectionneur. J'ai pas de casque Adrian chez moi. Je participe pas à des reconstitutions. Ça m'intéresse énormément, mais en même temps, j'ai d'autres centres d'intérêt et j'en fais pas, disons, le centre de ma vie. Donc il y a une part qui m'échappe un peu, effectivement, hein, dans l'engouement qu'ont des gens qui ont des blogs, qui effectivement se déguisent en poilus, qui font revivre cette période, qui écrivent des pièces de théâtre. Enfin voilà, il y a vraiment une mobilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une mobilisation qui vient de l'État. Hein, c'est une mobilisation vraiment qui vient du terrain, qui vient d'acteurs qui s'en saisissent. Alors ça traduit, je pense, plusieurs choses. Ça traduit globalement un besoin ou un souci d'histoire et de patrimoine à l'échelle locale. Et on sait que dans beaucoup d'endroits, s'enraciner dans une histoire, c'est une manière, bah, finalement, de participer à la vie locale, hein, d'être dans une association Bretagne 14-18 pour valoriser la participation des Bretons, Soissonnais 14-18. Enfin voilà, il y a beaucoup d'associations locales qui entretiennent ça. Je pense que c'est une guerre dans laquelle il est plus facile de se projeter que la deuxième. Alors même qu'il y a plus de morts, mais justement parce qu'il y a plus de morts, d'un certain côté, tout le monde a un héros, tout le monde a une victime dans sa famille. Et le poilu, il est les deux. Il est la victime, c'est en tout cas un angle d'approche qu'on peut avoir, la victime de la boucherie, la victime des généraux, la victime des gouvernants, on peut le voir comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours vrai, mais c'est une lecture qui est assez répandue. Et puis d'un autre côté, c'est un héros, parce qu'évidemment, s'il est mort, ou même s'il est revenu blessé, ou même indemne, il a combattu, et donc il a cette dimension héroïque, il a traversé des épreuves, et c'est une figure qui, de toutes les manières, peut être valorisée. C'est beaucoup plus compliqué de valoriser l'histoire familiale de 39-45. Peut-être que vous pouvez valoriser un passé résistant chez vos ascendants. Moi, c'est pas spécialement le cas, et pour la plupart des gens, c'est pas le cas, parce que les résistants étaient relativement minime fraction. Les résistants actifs, en tout cas engagés dans des mouvements de résistance, étaient une petite partie de la population. Il y avait beaucoup de gens qui sympathisaient avec eux, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Donc, se pencher sur le passé familial de 39-45... Hein, voilà, c'est plus compliqué, et puis on peut même avoir des mauvaises surprises, on peut même découvrir des gens qui ont fait des choses pas très avouables. Donc la projection familiale, elle est quand même moins facile, avec en plus un élément supplémentaire pour 14 qui permet de se projeter, c'est que c'est la première guerre à avoir laissé autant de traces, parce que pendant 4 ans, les soldats ont eu le temps d'écrire, et c'était la première génération qui était allée massivement à l'école républicaine, qui a eu quand même un effet positif sur l'alphabétisation des Français dans les années 1880-90, et donc la génération qui arrive, c'est une génération qui sait globalement, avec disons des échecs parfois, mais globalement qui sait lire et écrire, et donc qui a laissé beaucoup de lettres, beaucoup de carnets, etc., qui sont récupérés ensuite par les descendants, qui peuvent se les approprier, qui peuvent s'y reconnaître. Donc je pense que tout ça explique en partie l'engouement, et qu'il y a un engouement souvent d'une troisième ou quatrième génération de gens qui, par exemple, n'ont pas connu leur grand-père, mais qui disent: il est mort aujourd'hui, mais j'aurais aimé lui parler, je redécouvre ses lettres et je veux porter sa mémoire. Hein, on trouve souvent ce type de démarche là associé aussi avec des démarches peut-être plus, comment dire, un peu différente, des démarches de créateurs. Il y a des groupes de rock, il y a des auteurs de BD qui s'emparent de la guerre parce que c'est quand même un événement avec une dramaturgie. Hein. Voilà, la figure du fusillé, c'est une figure qui a énormément fait travailler l'imagination des réalisateurs depuis Kubrick jusqu'à Genet, On y mange de fiançailles, on retrouve cette image. Donc c'est quand même un événement aussi qui se prête à une certaine dramaturgie, qui se prête et puis aussi à une émotion. Hein. Et quand on va au Chemin des Dames, quand on va à Verdun, quand on va dans un certain nombre de lieux, il y a une émotion liée à cette histoire. Hein. C'est des lieux qui ne laissent pas indifférents non plus que les lieux de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je veux dire, c'est logique d'une certaine façon que ce soit un événement qui provoque des émotions et qui soit capable, ou en tout cas où les gens soient capables de se l'approprier pour les provoquer. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est que ce n'est pas quelque chose, il me semble, d'artificiel. C'est quelque chose qui est relativement partagé dans la société. Tout le monde n'est pas passionné 14-8, mais il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse. Et lorsque c'est le cas, c'est des démarches souvent très originales, très personnelles, y compris chez les enseignants. Lorsque les enseignants, moi je suis prof, j'ai longtemps été prof en lycée, et je vois bien parmi mes collègues, lorsque les profs traitent 14-18, ils ne le traitent pas tout à fait comme, voilà, c'est un sujet du programme qu'on doit faire, on doit faire la géographie de l'Europe rhénane, les ports de l'Europe rhénane, Rotterdam. Bon, voilà, quand on fait ça, je veux dire, il n'y a pas un investissement émotionnel considérable. Par contre, quand on fait 14-18, là, ça intéresse les gens. Et là, ils vont aller chercher le carnet du grand-père, ils vont aller chercher des documents originaux, ils vont se souvenir du film qu'ils ont vu, ils vont montrer à leurs élèves, ils vont monter des projets, ils vont aller sur les champs de bataille, ils vont monter des choses plus investies parce que c'est un endroit où ils ont envie de s'investir.
Il y avait une question ici, devant. Et puis ensuite, après, on va, si on veut boire un coup avec André, il faut qu'on arrête là.
Non, je voulais avoir votre avis.
Non, il faut que tu parles dedans.
Comme ça. Comme ça.
Comme ça.
Je voulais avoir votre avis, là, puisque c'est la chaîne de télévision démarre cette semaine. Je ne l'ai pas vu cette semaine démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui diffuse par rapport aux écrits
Apocalypse.
Alors, ça a déjà été diffusé, je crois.
Ça a été diffusé il y a deux soirs.
Et ça... avec la couleur ou je sais pas quoi. Non.
Alors, voilà, je vais vous dire un petit peu, et je suis relativement bien placé pour en parler parce que j'ai contribué à Apocalypse. J'ai été un des conseillers de l'émission documentaire Apocalypse qui a été diffusée, donc je crois que c'était mardi soir. Et puis, il y aura une mardi prochain et encore le mardi d'après. Donc, il y a 5 émissions en tout. 5 épisodes. Alors moi, je suis partagé. Moi, j'ai rencontré les réalisateurs. Et c'est leur film. Hein, c'est eux qui ont signé le commentaire. C'est eux qui tiennent leur discours. Je suis partagé. Je pense que c'est des gens qui ont fait un travail honnête. C'est pas des falsificateurs de l'histoire. Ils ont fait un travail honnête. Ils ont fait un gros boulot sur les images. Avec la limite du genre, qui est que Apocalypse, c'est un programme qui ne donne pas la source des images, qui les colorise, qui les sonorise. Donc ça, on sait que de toute façon, c'est très critiquable sur le plan de l'utilisation des images. Moi, quand on m'a proposé de travailler sur ce projet, je savais quelles étaient les contraintes, et donc c'est pas sur le principe même que je vais critiquer, parce que, en connaissance de cause, j'ai dit, bon, bah voilà, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir si on peut quand même essayer de le tirer vers, voilà, un peu de recul, un peu de nuance, etc. Résultat mitigé. Il y a des moments où je trouve que ça fonctionne, il y a des images qui sont des images inédites et qui sont très frappantes quand on voit la guerre dans le Caucase, moi que j'avais jamais vu filmer, ça donne accès à ça. Et il y a des moments où le commentaire se distancie des images et arrive à décortiquer un petit peu ce qui se passe, et je trouve que ça fonctionne. Et puis il y a des choses, et je l'avais dit à l'époque dans les échanges que j'ai eu avec les auteurs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont trop simplistes. Ne serait-ce que les titres des épisodes, hein, rage, peur, haine, ou je ne sais pas quoi, voilà, comme si les gens étaient possédés par des émotions primaires et animales. Moi, de mon point de vue, ça fonctionne pas. C'est erroné. Voilà, on peut pas raconter les choses comme ça. Et l'autre chose qui fonctionne pas, de mon point de vue, c'est une narration très centrée sur les grands personnages, hein, le tsar, le roi d'Angleterre, etc. Bon, voilà. Alors, la justification des auteurs et des producteurs, c'est de dire oui, mais c'est ça qui intéresse les gens. Bon, et moi, quand j'ai discuté avec eux, j'ai essayé de leur dire on peut essayer de les intéresser autrement. Voilà, donc c'est un échange qui a eu lieu. Moi, j'ai essayé autant que possible de faire valoir un point de vue qui soit un point de vue historien, en sachant les limites du genre et en sachant que de toute façon, quand vous faites un programme colorisé qui va passer à 20h30 à une heure de grande écoute visant à capter 5 ou 6 millions de personnes, il y aura des concessions et il y aura des simplifications. Et là, elles sont évidemment importantes et donc ce qui est diffusé n'est pas complètement satisfaisant. Voilà. Mais à mon sens, il y a des éléments positifs et il y a des éléments intéressants dedans.
Bon, voilà, donc on est en plein pied dans le centenaire de la guerre 14-18, voilà, avec cette série télévisée. Bon, ce n'est que le début, Alors, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. On verra ce qu'il en sera de la production qui nous sera proposée. En tout cas, moi, je pense qu'on va remercier André d'avoir accepté de venir à Merlieu. Et puis, on va passer à l'apéro, une autre façon de continuer la soirée en partageant.
Alors, merci beaucoup.